Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Géopolitique est à l'école militaire sur invitation des stagiaires de l'école de guerre, laquelle organisait cette semaine un module géopolitique. Regard aujourd'hui sur la Russie au Proche et Moyen-Orient, la stratégie de Moscou sur les rives orientales et méridionales de la Méditerranée. Une stratégie qui apparaît de plus en plus désormais comme une stratégie d'ensemble de la mer Noire au littoral de la Syrie jusqu'au golfe de Sirte et qui a mis du temps à apparaître comme telle alors que occidentaux et américains sont longtemps restés centrés sur les printemps arabes et la situation en Ukraine et en Crimée. Le rôle de la Russie au-delà de la Syrie ne peut plus être ignoré, à commencer par la Libye. Et alors que se noue ou se renoue des alliances, s'opère des rapprochements, pour n'en citer que quelques-uns, ceux de la Russie avec la Turquie, l'Égypte, Israël ou encore l'Algérie, l'ambition de la Russie de se réaffirmer sur le théâtre proche et moyen-oriental a reçu moins d'attention que la question syrienne ces dernières années. Et pourtant, les changements sont bien là. La Russie, un acteur majeur de la recomposition du Proche-Orient, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, auteur de plusieurs ouvrages dans la guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Julien Nocetti, chercheur au Centre Russie de l'IFRI et spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
Et Mathieu Bouleg, associé au cabinet de conseil en management des risques AESMA, analyste pour le think tank Cap Europe et spécialiste des questions post-soviétiques. Bonjour.
Bonjour.
Et avec moi pour animer ce débat, le capitaine de frégate Jérôme Dubois, stagiaire à l'école de guerre. Jérôme Dubois a exercé les fonctions de chef de détachement d'hélicoptères embarqué sur frégate lors de diverses missions, dont la mission Aromanche dans le golfe Arabo-Persique en 2014. Il étudie la stratégie navale et maritime de la Russie à l'école de guerre. Bonjour.
Bonjour.
Et je remercie l'école de guerre pour son accueil, donc ici dans l'amphithéâtre Foch de l'école militaire. Après la Syrie, la Libye, en marge de la crise syrienne sur laquelle nous reviendrons, la Russie poursuit sa stratégie et prend ses marques en Méditerranée, en particulier en Libye où elle affiche son soutien au général Haftar. Quelles sont les raisons de l'intérêt russe en Libye ? La politique de Moscou en Libye peut-elle contribuer à un rapprochement intra-libyen ? Quels sont les risques du jeu russe en Libye ? Et au-delà, que sait-on de la stratégie russe sur la rive sud de la Méditerranée ? C'est peut-être beaucoup de questions pour démarrer, mais ça permet sans doute de poser le cadre. Pierre Razou.
Ce qu'on voit donc, c'est que les Russes reviennent en force dans la région. L'impression que j'ai, c'est qu'en fait, il ne faut pas surévaluer la puissance russe et le retour de la puissance russe dans la région. Donc les Russes sont très visibles, brassent beaucoup d'air, montrent toutes leurs capacités, montrent surtout qu'ils ont regagné un certain nombre de capacités militaires qu'ils avaient perdues. En même temps, on voit bien qu'ils font face à des difficultés. Le porte-avions Kuznetsov, qui a passé donc quelques semaines en Méditerranée orientale, et a fait une parfaite démonstration donc de ce dont la Russie était de nouveau capable, a dû retourner donc en Russie et désormais en entretien technique de longue durée pour plus de 2 ans parce que évidemment c'est un bâtiment très ancien. Donc il faut relativiser. L'impression que j'ai, c'est que le jeu de la Russie dans la région est paradoxalement beaucoup plus défensif qu'offensif et qu'il est animé bien entendu par une volonté de retour, d'affirmer, de pousser ses pions dans la région pour montrer que la Russie est de nouveau redevenue un partenaire incontournable dans la région. Mais je crois que les Russes ont d'abord et avant tout intérêt à stabiliser la zone pour lutter contre les djihadistes, pour lutter contre le terrorisme islamique, et aussi pour pousser leur jeu énergétique. Et lorsque, par exemple, ils se montrent actifs en Libye en soutenant le général Haftar, beaucoup plus que pour contrer les positions occidentales, je crois que c'est pour miser sur la seule personne qui leur semble, disons, la seule à même de stabiliser à terme la Libye. Et donc, en stabilisant la Libye et par de là même la Méditerranée orientale, faire leur jeu pour permettre aux Russes de projeter leur vision énergétique et leur stratégie énergétique dans la région.
Le général Haftar qui a d'ailleurs été formé dans les meilleures écoles militaires russes. Julien Nocetti.
Moi, j'y réagirais dans le même sens que Pierre Azou. J'affinerais peut-être l'argument du retour et de l'affichage de la puissance russe dans la région, en disant que, si vous voulez, le momentum actuel que les Russes expérimentent dans la région permet à Poutine vraiment d'approfondir une constante qu'il essaie de mettre en place depuis 2005-2006 dans la région, qui est de faire en sorte que la Russie puisse dialoguer avec tous les acteurs de la région, excepté Al-Qaïda et autres acteurs de ce type-là. Mais si vous voulez, ce qui est tout à fait notable aujourd'hui de la part des Russes au plan diplomatique au Moyen-Orient, c'est cette capacité à engager, comme on dit, tous les acteurs. Ça se traduit par un jeu d'équilibriste sur le dossier libyen. À Moscou, Poutine, Lavrov ont reçu assez régulièrement Haftar à Moscou. Il y a aussi des relations que Moscou souhaite étroites, mais qui sont plus complexes avec le gouvernement transitoire à Tripoli, les forces de Sarraj. Il y a une relation aussi très étroite aussi, on y reviendra sans doute, avec Israël, dans la région, qui est aussi structurante, très très dimensionnante pour Moscou. Il y a une relation aussi étroite et très méconnue avec la Jordanie. Il faut savoir que depuis le couronnement d'Abdallah II en 99, Poutine et Abdallah se sont rencontrés 16 fois. Donc il y a une vraie connaissance aussi de la part des Russes de l'exécutif jordanien. Et des méthodes aussi jordaniennes dans la région. Donc du coup, c'est quelque chose qui est tout à fait notable de la part des Russes, de vouloir s'introduire plus fermement dans le jeu diplomatique régional et d'y pousser leurs pions. Et aujourd'hui, on ne parle que d'eux.
Et peut-être un pays à rajouter dans la liste que vous venez d'évoquer, Julien Dossetti, l'Algérie, on en reparlera tout à l'heure. Mathieu Bouleg.
Oui, pour compléter ce qu'a dit Julien, la Russie conçoit fondamentalement Moyen-Orient comme tout sauf un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'elle a une capacité de parler avec tout le monde. On l'a vu des discussions avec l'Iran d'un côté, quand elle est capable de discuter avec Israël. Elle est également capable de parler avec les monarchies du Golfe et d'entretenir un dialogue très construit avec ses ennemis, entre guillemets. Donc c'est une compréhension qui est tout sauf ce jeu à somme nulle. Et aujourd'hui, on voit une Russie qui est plus qu'un acteur, est une puissance qui est capable de remodeler les problématiques sécuritaires et géopolitiques régionales au Moyen-Orient à sa manière. Après avoir été faiseur de guerre, entre guillemets, en Syrie, elle devient un faiseur de paix, puisque la Russie a complètement encapsulé le processus de règlement du conflit syrien sous l'égide de la puissance russe, en sortant progressivement les acteurs diplomatiques occidentaux pour faire de la Russie ce centre des discussions diplomatiques qui ont en plus lieu à Astana à l'heure actuelle. C'est relativement connoté en matière de diplomatie. Et aujourd'hui, la Russie se positionne de nouveau comme un nouveau faiseur de guerre, entre guillemets, vis-à-vis du dossier libyen, en sortant les considérations prioritaires de la Syrie pour les porter sur la Libye. La Russie argumentant que l'Occident n'étant pas capable d'intervenir dans le dossier libyen, c'est la Russie qui, comme en Syrie, intervient là où l'Occident ne veut pas faire le sale boulot, entre guillemets. Et aujourd'hui, on voit cette Russie qui est capable de porter le moment géopolitique et faire sens à un moment géopolitique par l'intermédiaire de sa diplomatie et de son positionnement, encore une fois, au centre de ses considérations sécuritaires et stratégiques dans la région. Et on a vu la Russie porter à bout de bras, entre guillemets, le régime syrien avec la personne de Bachar el-Assad, comme on voit aujourd'hui la Russie porter, entre guillemets, le général Haftar comme une personne clé pour le règlement des problématiques sécuritaires en Libye et dans la région.
Alors, je crois que Pierre Azou souhaite rajouter quelque chose. Après ça, je vous passe la parole, Jérôme Dubois. Pierre Azou.
Oui, juste un mot pour dire que dans la région notamment, enfin ou plutôt Poutine et le Kremlin en règle générale utilisent la région pour faire, si vous me passez l'expression, de la pédagogie. Alors c'est évidemment politiquement incorrect de dire ça, mais la pédagogie vue du Kremlin, ça consiste à dire si je soutiens Bachar el-Assad jusqu'au bout, c'est pour montrer à tous les autocrates de la région ou aux futurs autocrates de la région, que bien entendu, s'ils veulent un soutien ferme et décisif jusqu'au bout, il faut voter Poutine, il faut voter le Kremlin. C'est-à-dire que le message indirect au maréchal Sissi, au général Haftar et à bien d'autres dans la région, y compris dans le Golfe, consiste à dire, vous voulez quelqu'un qui vous soutienne et qui ne vous endette pas sur les questions démocratiques ou autres, vous voulez quelqu'un qui vous soutienne jusqu'au bout et pas jusqu'à la prochaine élection, eh bien votez Kremlin.
Jérôme Dubois.
Alors, autour du soutien de général Haftar en Libye, on a deux pays qui sont également dans cette ligne de soutien, qui sont l'Égypte et l'Algérie. Est-ce qu'on peut parler d'agrégation de ces pays d'Afrique du Nord autour de la stratégie russe qui se déploie militairement depuis quelques années ?
Julien Dossetti.
Alors, du moins avec l'Égypte, ce qui est tout à fait aussi notable là, dans la stratégie russe sur ce pays, c'est schématiquement la formation d'une sorte de trio entre Moscou, Tripoli, Tobrouk et le Caire. Il est question depuis quelques semaines que les Russes utilisent une base que les Soviétiques avaient utilisée déjà à l'époque dans les 70, à Sidi Barani, qui est à la frontière libyenne. Il y a une coopération antiterroriste aussi assez étroite depuis la prise de pouvoir de Sisi en Égypte avec les Russes, des exercices navals conjoints en Méditerranée orientale entre les deux pays. Un discours commun aussi sur le terrorisme, sur les frères musulmans, qui est aussi là aussi commun avec les propos d'Haftar. Donc ça plaît aussi beaucoup au Kremlin. Et une vraie convergence de vues, si vous voulez, un vrai axe qui est en train de se former entre le Caire Moscou et les Libyens sur ces questions.
Pierre Azou.
Oui, peut-être juste pour nuancer et apporter un éclairage sur l'Égypte. Sauf que j'étais en Égypte fin janvier. Faut pas oublier que les Égyptiens ont tiré les leçons de Moubarak et de Morsi. Et la leçon principale, c'est qu'il ne faut plus un seul, entre guillemets, patron pour sponsoriser l'Égypte. Donc la stratégie, me semble-t-il, de l'Égypte, c'est au contraire de multiplier les partenariats. Donc bien sûr, le maréchal Sisi va essayer de développer une relation forte avec Poutine, de même qu'il développe une relation très forte avec les Français, les Allemands, avec surtout les Émiriens, les Saoudiens, les Koweïtiens, bref, en fait, avec tout le monde. Le but du jeu étant d'avoir un maximum de partenaires pour pouvoir activer soit les uns, soit les autres en fonction de ses intérêts. Je crois aussi qu'il faut rappeler que les Russes, bien sûr, en effet, essayent de revenir en Égypte. Ce qui intéresse les Égyptiens, c'est bien sûr les contrats d'armement. C'est aussi, surtout, il ne faut pas oublier, la coopération nucléaire. Donc les Russes et les Égyptiens sont à deux doigts de signer un accord de coopération pour la construction par les Russes de deux centrales nucléaires civiles près de Marsa Matruh sur la côte méditerranéenne, justement pas loin de la frontière libyenne, ce qui explique aussi qu'ils aient intérêt à stabiliser cette région-là. Et c'est aussi la raison pour laquelle les Russes essayent de développer un petit peu partout, de relancer leur canal de négociation avec l'Algérie, au-delà de la position navale. Il y a tout le jeu gazier en Méditerranée qui se joue, et l'évolution, disons, le fait que les Russes ont fondamentalement intérêt à faire remonter les prix du pétrole et les prix du gaz, et donc ont intérêt à s'entendre avec les grands producteurs de pétrole et de gaz de la région.
Mathieu Bouleg.
Oui, je rejoins ce qui a été dit précédemment et voudrais rajouter que la stratégie russe est totale et globale en Méditerranée orientale, avec effectivement ce jeu à plusieurs bandes au niveau économique, énergétique, diplomatique avec le règlement des conflits. La question nord-africaine est plus lointaine au niveau de la géostratégie régionale pour la Russie. On a une approche beaucoup plus bilatérale basée sur une compartimentalisation, disons, des dossiers économiques avec l'Algérie, notamment avec les contrats gaziers, beaucoup plus de coopération technique et de vente d'armement avec l'Égypte. Feu les Mistral français qui seront donc appontés avec des hélicoptères probablement russes et une coopération militaro-industrielle entre les deux pays qui est assez poussée à l'heure actuelle. Et cette stratégie donc beaucoup plus englobante, disons, sur la Méditerranée orientale, la Russie comprenant l'Égypte comme un pilier réel, comme l'Égypte a toujours été ce pilier entre, disons, le poumon de la santé du Moyen-Orient, et comprend l'Égypte comme ce verrou et ce pilier diplomatique qu'il faut soutenir, notamment pour toutes les décisions importantes en matière de géostratégie régionale qui ne peuvent pas se faire sans l'Égypte, comme elles ne peuvent pas non plus se faire sans l'Iran et la Turquie aujourd'hui.
Je repasse la parole à Jérôme Dubois pour la prochaine question, mais juste ce que vous venez de dire à l'instant, Mathieu Bouleg, me suggère une question. Vous évoquez la notion de compartimentalisation de la stratégie russe. Finalement, on aurait presque envie de la comparer avec les fameux colliers de perles que la Chine développe depuis quelques années et bien en amont par rapport à la Russie, mais dans son environnement. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de semblable côté russe, Pierre Azou?
Non, plutôt qu'un collier de perles, moi je dirais que c'est un peu comme le jeu de Go. C'est-à-dire, en fait, on place des pions sur le plateau, là où potentiellement ça peut nous générer un gain un peu plus tard. Donc il n'y a pas de stratégie cohérente, si vous voulez, de telle la toile d'araignée un petit peu à la chinoise, c'est-à-dire on développe nos lignes de communication. C'est beaucoup plus une stratégie de coup, entre guillemets, de coup au sens faire un bon coup, je pense.
Julien Ossetti.
Effectivement, je reviens à Pierre Azou. En fait, il y a une habileté du Kremlin à faire des coups tactiques dans la région. Il n'y a pas de grande stratégie russe pour le Moyen-Orient et pour le monde arabo-musulman, mais il y a vraiment une habileté justement à faire ses coups. J'apporte une petite nuance sur ce qu'on disait à propos de l'Égypte. Il restera à avoir un paramètre qui est quand même assez important dans la région et qui concerne pas uniquement l'Égypte, mais aussi d'autres pays comme l'Iran, qui sont extrêmement sourcilleux vis-à-vis de leur souveraineté. Et je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, l'exécutif égyptien soit tout à fait désireux d'accueillir des bases militaires étrangères, russes en l'occurrence, sur son sol. Donc ça, c'est un paramètre à suivre dans les prochains mois. Un autre aspect que Pierre Azou a mentionné, c'est que les Égyptiens discutent avec d'autres pays que les Russes. Ça, c'est extrêmement important, parce que de la même manière que le Moyen-Orient est instrumental pour les Russes, c'est-à-dire qu'il doit servir avant tout les relations russo-américaines. Si vous voulez, pour les Égyptiens, comme pour les Saoudiens par exemple, la Russie est instrumentalisée. C'est-à-dire que qu'il s'agit très souvent d'entamer des négociations pour des livraisons d'armes ou des négociations pour des grands accords énergétiques, des grands paquets de deals. Mais il s'agit très rarement de les mener jusqu'à leur terme. Il s'agit de faire pression sur Washington pour ensuite obtenir des contreparties. Donc il y a aussi une habileté traditionnelle de ces régimes régionaux à obtenir des choses de la part de Moscou et dans un jeu de billard à trois bandes avec les Américains.
Ils ne sont pas tombés de la dernière pluie, comme on peut le dire trivialement. Jérôme Dubois.
De la Russie à la Méditerranée, il y a quand même un partenaire majeur dans cet axe, qui est la Turquie, qui a été rassemblée au sommet d'Astana dans les négociations sur le conflit syrien avec l'Iran. On a vu un rapprochement récent de la Russie avec la Turquie. Quel avenir pour ce partenariat, ou stratégique ou tactique, et quel axe, est-ce qu'il existe un axe Turquie, Russie, Iran autour de la question syrienne?
Qui souhaite répondre, Pierre Razou?
Oui, je crois qu'en fait cet axe et ce jeu à trois, c'est fait par défaut. Pourquoi? Parce que quand on connaît bien la région, on voit bien qu'il n'y aura pas d'issue négociée à la crise syrienne et irakienne sans un triple accord, c'est-à-dire un accord d'abord entre les États-Unis et la Russie, ça on peut penser que c'est le cas. Un deuxième accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça c'est excessivement plus difficile. Et un troisième accord entre la Turquie, Israël et l'Union Européenne. Et ça c'est en train de se dessiner. Le problème c'est que dans ce jeu-là, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont en retrait, notamment l'Union Européenne, notamment l'Arabie Saoudite et partiellement les États-Unis dans le cadre de la redéfinition de la politique de Trump. Donc finalement, dans ces trois équations, les trois qui restent, eh ben, ce sont les Turcs, les Russes et les Iraniens qui disent, ben, puisque finalement les autres ne sont pas vraiment là, entendons-nous ensemble le temps que les autres acteurs majeurs reviennent dans l'équation, notamment les Saoudiens, notamment les Américains. Donc je pense que c'est beaucoup plus conjoncturel, si vous voulez, que de structurel et durable. Et pour avoir vu des Russes et des Turcs la semaine dernière et en avoir discuté avec eux, clairement, on voit bien quand même que les Russes ne se font guère d'illusions sur le jeu et sur la géopolitique turque de long terme. Et les Turcs, malgré toute la complexité du jeu de M. Erdogan, restent également extrêmement prudents vis-à-vis de la Russie. Donc Erdogan voit bien qu'il a été isolé, qu'il lui fallait sortir de son isolement, qu'il ne pouvait compter ni sur les Américains ni sur les Européens. Ni sur les Saoudiens, donc il s'est appuyé finalement sur les seuls capables de faire pression et capables de faire pression sur tout le monde à ce moment-là du jeu, c'est-à-dire sur les Russes.
Donc des accords de circonstances d'une certaine manière, c'est ce que j'entends. Oui. Mathieu Boulek, Julien Nocetti.
Oui, effectivement, la Turquie s'est rapprochée presque par défaut effectivement de la Russie, à ceci près que le dossier est également profondément bilatéral et non pas uniquement sur le règlement du conflit syrien. La Russie et la Turquie ne peuvent pas se permettre de s'aliéner leurs intérêts mutuels ou d'être ennemis. On l'a vu après l'incident ou l'accident, on appelle ça comme on veut, à la frontière syrienne quand la Turquie a descendu un avion de chasse russe. Le règlement, disons, de cette crise extrêmement aiguë dans les relations bilatérales entre la Russie, la Turquie et avec l'OTAN en ligne de mire par derrière, s'est faite de manière extrêmement apaisée, je dirais, et n'a pas mené à une montée des hostilités comme ça aurait pu être le cas dans un autre dossier ou dans un autre moment. Et finalement, pour la Russie, c'est extrêmement important de conserver cette ligne de dialogue avec la Turquie par le biais de l'OTAN, et notamment sur l'échec du dossier de la Turquie vis-à-vis du dossier européen. Donc la Russie, finalement, se targue d'avoir comme allié aujourd'hui un pays qui a été ignoré par l'Union européenne et qui est un membre de l'OTAN, mais qui est capable de discuter au niveau militaire, au niveau stratégique, sur la question du règlement du dossier syrien, de manière privilégiée aujourd'hui. Effectivement, n'importe quel accord de paix aujourd'hui en Syrie ne pourra pas se faire sans l'avis de la Turquie dans le jeu régional.
Julien Nocetti.
Très rapidement, moi je rejoins les propos qui ont été formulés sur ce dialogue russo-irano-turc. C'est vraiment une alliance contre-intuitive, dans la mesure aussi où là encore, par l'historique, pour les Russes, ces deux pays, Iran-Turquie, auquel on pourrait inclure l'Afghanistan, mais c'est un peu différent, font partie de ce que les Russes appellent le tiers nord. Et toutes les interactions que les Russes ont faites avec l'islam, avec le monde arabe, avec le Moyen-Orient en général, sont passées par ces pays-là. Donc il y a des histoires extrêmement complexes, très souvent derrière, donc une méfiance de part et d'autre qui est extrêmement forte et vivace encore aujourd'hui. Et quand on va à Moscou et qu'on discute avec des orientalistes, des officiels, on se rend bien compte que la confiance est toute limitée envers Ankara et Téhéran.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pierre Razou, Julien Nocetti, Mathieu Boulègue et Jérôme Dubois, stagiaire à l'école de guerre, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Russie au Proche et Moyen-Orient, la stratégie de Moscou sur les rives orientales et méridionales de la Méditerranée. Nous retrouvons nos invités Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, auteur de plusieurs ouvrages dans la guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Julien Nocetti, chercheur au Centre Russie de l'IFRI, spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient. Et Mathieu Boulègue, associé au cabinet de conseil en management des risques, ASMA, analyste pour le think tank Cap Europe et spécialiste des questions post soviétique. Et avec moi pour animer ce débat, le capitaine de frégate Jérôme Dubois, stagiaire à l'école de guerre. L'école de guerre qui nous accueille aujourd'hui dans l'amphi Foch de l'école militaire. Jérôme Dubois.
Oui, alors une première question pour cette deuxième partie. Est-ce que la Russie sera capable d'amener une paix russe alternative à la paix américaine ? Ou profite-t-elle du statu quo pour cacher un petit peu une situation gelée en Ukraine, difficile pour elle ?
Pierre Razou.
Oui, alors l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, c'est pas une paix russe alternative. Ce que je vois en tant qu'expert ou analyste, c'est que avec Trump, Tillerson et Poutine, Lavrov, on voit se dessiner une nouvelle ligne, si vous voulez, de partage d'influence au Moyen-Orient. C'est-à-dire que avant, dans la logique Bush, Obama, Clinton, la logique, c'était les États-Unis vont pousser leur agenda partout dans tous les pays, en Syrie, en Irak, en Iran, on essaye de négocier ou de faire du containment. Là, on retourne en fait à la logique de la fin de la guerre froide, non pas sur une logique d'affrontement, mais sur une logique de statu quo et de stabilisation. Les États-Unis, comme les Russes, ont des gros soucis partout ailleurs sur la planète, donc ne peuvent pas être suractifs au même moment partout, et ils ont décidé qu'il fallait stabiliser ou geler en quelque sorte le Moyen-Orient. Donc ils décident de nouvelles zones d'influence. Et ces zones d'influence, elles sont très simples. On voit bien actuellement la Russie et l'Iran s'entendre pour, disons, prendre le lead sur l'Irak, la Syrie. Au passage, j'attire votre attention sur Chypre. Je pense que Chypre est en train de, peut-être pas basculer, mais en tout cas de sérieusement regarder s'il n'aurait pas intérêt à faire alliance plutôt avec la Russie qu'avec l'Union européenne. Les Russes, ça leur irait très bien. Et au sud de cette ligne-là, on voit bien les États-Unis et les monarchies du Golfe se dire « bon ben voilà, nous on stabilise le sud de la région ». Donc on est plutôt sur un scénario, à mon avis, de statu quo et de stabilisation de la région.
Scénario de statu quo et de stabilisation de la région. Julien Nocetti, Mathieu Boulègue, vous partagez ?
Alors,
Julien Nocetti.
Je ne suis pas certain qu'on puisse actuellement parler de Pax Russica, hein, analogue à la Pax Americana au Moyen-Orient qu'on a connue après 73. Hein. D'ailleurs, après que les Soviétiques aient été éjectés quasi manu militari, notamment d'Égypte à cette époque, et après la problématique énergétique avec l'OPEP. Un élément intéressant, c'est que avant que les Américains ne se désengagent partiellement du Moyen-Orient, entamé sous Obama, si vous voulez, les Russes tiraient au fond parti du parapluie militaire américain. Donc au fond, ils pouvaient nouer, essayer de nouer autant de contrats qu'ils le souhaitaient, développer des relations plus ou moins cordiales avec l'ensemble des régimes de la région. Je suis pas certain que la position actuelle, en fait, qui est celle des Russes dans la région, d'être en mesure de prendre la place des Américains, soit vraiment à la fois en faveur des intérêts de Moscou et soutenable à long terme, à moyen et long terme. Je pense surtout que les buts globaux de Moscou sont plus importants, sont plus significatifs aux yeux du Kremlin que ses objectifs vraiment, enfin purement régionaux. Il s'agit, je pense, et là je fais référence au propos de Lavrov à Munich en février, hein, le Moyen-Orient doit corroborer, selon Moscou, la transition vers un ordre international post-occidental. Et donc là, on est en plein dans ce que les Russes souhaiteraient mettre en place à l'échelle globale, de remettre en cause le primat occidental et de revenir à des relations de pure puissance entre grands acteurs.
Est-ce qu'il faut entendre, et je vous passe la parole juste après Mathieu Boulègue, est-ce qu'il faut entendre ce que vous venez de dire, Julien Nocetti, que finalement il y a une stratégie, ne serait-ce que de positionnement vis-à-vis de l'Europe à travers cette politique actuelle de Moscou? Alors, sur la rive sud de la Méditerranée et au Proche et Moyen-Orient?
Actuellement, je vais être peut-être assez brutal, mais pour Moscou actuellement, l'Europe elle ne fait plus partie de l'équation au Moyen-Orient. En partie depuis septembre 2013, quand France et Grande-Bretagne se sont compromises dans leur refus de s'engager militairement contre Damas. Donc depuis cette date, il y a une forme de mépris de la part de Moscou vis-à-vis des Européens.
Mathieu Boulègue?
Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Julien Ossetti. La Russie conçoit fondamentalement l'équation actuelle, disons, mondiale, comme la fin d'une période de transition post-guerre froide, un monde qui est en train de se dessiner, dans laquelle la Russie estime devoir et vouloir jouer un rôle de grande puissance, et non plus un rôle d'une puissance moyenne qui a été humiliée, entre guillemets, après la chute du bloc soviétique, qui aujourd'hui estime qu'il y a une place à prendre au Moyen-Orient, qui a été abandonnée par cette Pax Americana qui ne tient plus, abandonnée par une Union européenne qui, effectivement, pour la Russie, ne fait plus partie de l'équation, n'a plus aucune puissance ni légitimité à intervenir dans cette région. Et aujourd'hui, la Russie a donc une place à prendre. Et cette place à prendre, elle s'est faite par l'intermédiaire de rapprochements tactiques très spécifiques avec certains États. Et cette capacité, encore une fois, à dialoguer avec tout le monde, là où l'Occident n'est plus capable de dialoguer avec tous les États, est obligé de se compromettre, entre guillemets, par rapport à certains États. Et la Russie, aujourd'hui, profite de cet appel d'air provoqué par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche pour sortir de cette logique de ce que l'administration Obama appelait le « no linkage policy », c'est-à-dire l'absence de lien stratégique entre les différents dossiers qui occupaient la Maison-Blanche et le Kremlin. On a parlé notamment de ce lien potentiel d'échange entre le dossier ukrainien et le dossier syrien. La Russie aujourd'hui va profiter de la logique fondamentalement transactionnelle de la politique étrangère de Donald Trump et de Rex Tillerson, agrémentée de logique de sphère d'influence également. On va se partager, il va y avoir des formes de partage, d'influence du monde, là où la Russie maintenant est un acteur clé au Moyen-Orient, là où les États-Unis finalement n'ont pas pu tenir la distance et ne peuvent plus aujourd'hui tenir la distance.
Et là où l'Union européenne ne fait plus partie de l'équation, Jérôme Dubois.
Oui, une dernière question sur la logique de l'investissement russe au Moyen-Orient. Existe-t-il une logique de lutte antiterroriste russe au Moyen-Orient ?
Pierre Razou.
Oui, bien sûr. On voit bien que les Russes sont littéralement mesmérisés, paniqués par l'idée de voir les djihadistes remonter vers le nord à travers la Turquie, jusqu'au Sud-Caucase, au Nord-Caucase et aux principales villes russes. Donc, en bon joueur d'échecs, leur stratégie, c'est de faire une ligne de défense de l'avant, qui passe par les territoires avec lesquels soit ils contrôlent, soit ils ont de bonnes relations, c'est-à-dire l'Iran, le nord de l'Irak et les territoires kurdes autonomes irakiens, le régime syrien, et je rajoute, et Chypre et Israël. Et avec cette ligne-là de défense, le but, c'est de tenir le plus longtemps possible pour éviter leur montée vers le nord des djihadistes. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà prévu la deuxième ligne de défense qui, elle, est arquée sur le Sud-Caucase et qui s'activera si, par hasard, le front syrien, par exemple, venait à s'effondrer. Et comme dans cette ligne de défense, la Syrie était le ventre mou, le point faible de leur dispositif, ils sont intervenus directement militairement pour sauver la Syrie et justement pour sauver cette ligne de défense et éviter que les djihadistes remontent vers le nord. Et donc leur but, évidemment, c'est d'en éliminer le plus possible en Syrie et en Irak, quel que soit leur groupe et quelle que soit leur affiliation.
Julien Ossetti.
Oui, alors je rejoins totalement Pierre Razou. J'ajouterai seulement un élément de complément. Effectivement, il faut souligner l'aspect lutte antiterroriste, puisque chez des élites russes et des sécuritaires, pour la plupart issus des services de renseignement et des armées, il y a une grande familiarité avec le phénomène terroriste, qui a été traité chez ces personnes dès leur plus jeune âge en Afghanistan, en Tchétchénie, dans les deux campagnes de Tchétchénie. Donc il y a une grande familiarité, une vraie expérience avec ce phénomène, qui est certes instrumentalisé. Il y a une conception russe toute particulière de la lutte antiterroriste, qui n'est pas celle de la France notamment. Cela pour dire qu'il y a une vraie, au plan diplomatique, un vrai effort aussi de la part des Russes de structurer des coopérations antiterroristes de la même façon que sont nouées aussi des coopérations en matière énergétique ou militaire technique. Donc si vous voulez, ça fait souvent partie du package que les Russes proposent à des États de la région quand ils souhaitent développer leur rapport avec eux.
Mathieu Bouleg.
Pour faire une métaphore extrêmement scabreuse sur le jardinage, la Russie part du principe qu'il vaut mieux déraciner des terrés ailleurs avant que cela arrive chez nous. Et j'y vois deux éléments dans cette logique. La première, c'est que Pierre Razou mentionnait le ventre mou, c'est-à-dire cette logique qui a été énoncée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Primakov, que le Moyen-Orient était un axe d'instabilité qui pouvait provoquer des soubresauts sécuritaires dans l'étranger proche de la Russie, c'est-à-dire dans tout son entourage stratégique sur lequel elle estime disposer d'un droit de regard privilégié. Et donc qui dit insécurité dans cet étranger proche dit potentiellement insécurité pour le territoire de la Fédération de Russie, avec tous les problèmes liés à l'islamisation grandissante qu'il peut y avoir sur certains territoires en Russie, Caucase Nord on en parlait, mais également Tatarstan. Et la deuxième logique, c'est une logique beaucoup plus rhétorique, qui vise à montrer à l'Union européenne que c'est la Russie, selon elle, qui lutte contre le phénomène terroriste en Europe pour protéger, entre guillemets, les intérêts européens, là où l'Union européenne n'est pas capable de se doter de moyens suffisants pour aller régler le problème. Et c'est une rhétorique que l'on retrouve très souvent parmi les experts ou dans les médias russes, de montrer que la Russie est aujourd'hui la protectrice des intérêts sécuritaires européens.
Alors je rappelle que Géopolitique est accueillie aujourd'hui par l'école de guerre. Nous nous trouvons à l'école militaire dans l'Amphifoche et je propose que nous accueillions des questions venant de la salle. Monsieur.
Bonjour. Une des caractéristiques principales de la rive sud méditerranéenne est l'absence d'intégration régionale. Est-ce que vous imaginez un pays comme l'Algérie capable de jouer ce rôle d'intégrateur régional et d'assumer son rôle de puissance régionale ?
Pierre Azou ?
La réponse est simple. Aujourd'hui, je ne pense pas. Le régime algérien est fragilisé. Là, je parle à titre purement personnel. Et je ne vois pas comment l'Algérie, qui a fermé ses frontières avec le Maroc, la Libye, serait en mesure de promouvoir, si vous voulez, la coopération transverse. Ceci dit, c'est une vraie question et c'est fondamental. Parce que aujourd'hui, l'Afrique du Nord et de l'Atlantique, si vous voulez, jusqu'au canal de Suez, non pas meurent, mais souffrent énormément d'une absence de coopération transversale sud-sud ou ouest-ouest. Elle est uniquement organisée, si vous voulez, en bande d'intérêts géopolitiques nord-sud. C'est-à-dire que tous les pays de la rive sud de la Méditerranée ne regardent que vers le nord ou vers le sud et ne regardent pas vers leurs voisins. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois aucun État de la rive sud capable de promouvoir cette relation transverse, à part la Tunisie. Mais la Tunisie serait prête à le faire dans un contexte sécurisé et stabilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Question suivante.
Bonjour. Vous avez souligné la démonstration de puissance russe au travers du développement, du déploiement du groupe aéronaval russe dernièrement et puis sa mise en indisponibilité pour une durée de 2 ans. Pensez-vous que la Russie aura les reins suffisamment solides pour continuer à promouvoir sa politique étrangère au Proche-Orient sur le long terme ?
Julien Dossetti.
Excellente question. Je rappelais en début d'émission que la politique des Russes au Proche et Moyen-Orient était précisément de faire des coups tactiques, hein, dans une logique opportuniste, au fond, de prendre à contre-pied l'Occident, en particulier sur certains dossiers. Sur le long terme, tout va dépendre à la fois de la conjoncture économique aussi en Russie, qui forcément pèse au moins un minimum sur l'engagement militaire des Russes. Même si une particularité aussi, mais là je bascule peut-être sur un aspect un peu plus militaire, et Pierre Azou aura sûrement des éléments à apporter, c'est au fond l'empreinte assez légère que les Russes souhaitent mettre en place en Syrie, comme c'était le cas en Ukraine, avec la combinaison d'engagement de forces spéciales, de volontaires, essentiellement en Ukraine, forcément, et de contractors, c'est-à-dire de privés. Et ça, c'est, si vous voulez, les Russes aussi testent un certain nombre de choses au Proche-Orient, en Syrie, peut-être en Libye demain, qu'il faut aussi prendre en compte pour nous, Européens. Après, sur le long terme, je vous avoue que je suis assez peu certain d'une vraie stratégie, voilà.
Mathieu Bouleg.
Les Russes ont une logique très simple, c'est premier arrivé, premier sorti. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité de sortir du dossier syrien au niveau militaire s'il le faut, de garder des appuis au sol, des emprises mais très faibles, avec notamment cette logique de contractors et de sociétés semi-privées, qui permet d'avoir un déni plausible en matière d'intervention militaire et de sortir très rapidement du champ d'opération. La Russie a-t-elle les moyens de rester ? C'est une bonne question. Elle n'a plus de porte-avions à l'heure actuelle, donc celui-ci étant en entretien et réparation pour au moins 2-3 ans, ce qui fait que tout le déploiement va être assez compliqué. Par contre, la Russie compte énormément sur une logique de dissuasion beaucoup plus soft, avec les bulles, ce qu'on appelle des bulles de déni d'accès, c'est-à-dire cette capacité à bloquer l'accès à un territoire. Et ces bulles ont été mises en place sur toute une espèce de chaîne de bases militaires et d'appuis avancés qui permettent de contrôler les espaces aériens. On a vu des démonstrations de puissance qui sont justement ça, des démonstrations de puissance avec les tirs de missiles depuis la Caspienne qui permettent de montrer à l'Occident que la Russie a des capacités militaires renouvelées en matière de défense et d'attaque. Et la seconde phase finalement de cet appui militaire direct, c'est un appui militaire secondaire où la Russie va investir dans la formation et l'entraînement et le rééquipement d'armées locales sur lequel elle peut compter. On va le voir notamment en Libye avec cet appel à de la formation et de l'entraînement pour les troupes libyennes qui permet à la Russie de s'entourer de puissances militaires à l'image de la Russie.
Pierre Azou.
Oui, juste pour répondre à votre question sur le long terme, la réponse est oui, bien évidemment. Oui, sauf si, bien entendu, des catastrophes économiques ou géopolitiques se passaient ailleurs et les obligeaient à privilégier d'autres secteurs ou d'autres régions, le cas où. Deux éléments probants. Oui, les Russes sont capables de sortir les premiers et de retirer une partie de leurs forces. Mais regardez, économiquement, ils s'investissent en Syrie, au Liban et à Chypre. Ils rachètent petit à petit une grande partie de l'île de Chypre. Ils jouent aujourd'hui les bons offices entre les deux parties de l'île de Chypre pour essayer de les réconcilier, bien entendu, pour derrière pouvoir en tirer des bénéfices géopolitiques. Et ils rachètent, en termes d'argent, ils rachètent une grande partie de la côte méditerranéenne syrienne. Non seulement toutes les resorts de vacances, mais également les installations portuaires, des installations agricoles. Ils rachètent en grande partie la côte. Donc s'ils rachètent et s'ils investissent, c'est pas pour partir dans 6 mois.
Une autre question.
Oui, bonjour. Vous avez parlé de l'Égypte et de sa volonté de se rapprocher du Kremlin. Comment cela est-il perçu par Washington, sachant que les Américains, traditionnellement, financent une grande partie du budget de la défense égyptien, je crois à hauteur de 1,5 milliard de dollars.
Pierre Razou.
Alors, nos amis égyptiens, qui sont des gens polis, disent merci aux Américains, prennent tout ce qu'on leur donne, et c'est pas pour ça qu'ils vont ensuite l'utiliser dans le cadre donc des FMS. Les États-Unis, alors ça pourrait éventuellement changer avec Donald Trump. Le problème, c'est que la nouvelle administration Trump a, si vous voulez, joué le spoil system, c'est-à-dire a enlevé toute la couche d'élite précédente de l'administration, mais n'a pas encore remis une nouvelle couche. Donc pour le moment, c'est juste un non-joueur. C'est-à-dire que le Pentagone, oui, est capable de jouer parce qu'ils ont leur technocrate, si vous voulez. Mais au département d'État ou dans d'autres grandes administrations, il n'y a plus personne au top niveau. Donc les États-Unis savent qu'ils ont joué le mauvais cheval, ils ont joué les frères musulmans. Donc ils savent qu'à échéance visible, ils vont avoir quand même du mal, si vous voulez, à revenir durablement et à être très influents en Égypte. Donc leur carte à jouer, c'est par exemple essayer de rabibocher le maréchal Sisi avec le président Erdogan. Mais pour ça, il faudrait que d'abord Donald Trump établisse d'excellents contacts avec le président Erdogan, ce qui pour le moment ne semble pas encore le cas. Donc je crois que la réponse, c'est clairement les États-Unis ont compris qu'ils étaient non pas hors jeu, mais si vous voulez, quand même, disons, plutôt sur le côté du jeu. Et ils attendent de voir comment ça va se clarifier chez eux, je parle à Washington, avant de revenir dans la région.
Mathieu Boulegue.
Oui, effectivement, le président Trump et tout le leadership américain est aujourd'hui embourbé dans des dossiers de politique intérieure qui empêchent justement de travailler sur les dossiers de fond et notamment sur ce réengagement au Moyen-Orient et sur cette capacité à pouvoir recréer cette Pax Americana dont on parlait tout à l'heure, qui est aujourd'hui fortement ébréchée. Et les premières échéances seront le prochain sommet de l'OTAN au mois de mai. On verra ensuite comment les États-Unis évolueront en matière de politique étrangère sur ce terrain.
Julien Setti, vous souhaitez rajouter quelque chose ou...
Un très bref complément, en fait, vis-à-vis de Trump. Je pense qu'en fait, Moscou, dans la région, est surtout inquiète sur le dossier iranien. Si Donald Trump, si son administration remet en cause le deal passé en 2015 sur le nucléaire iranien, avec les conséquences que ça peut avoir ensuite dans la région, je ne pense pas que ça plaise beaucoup à Moscou. Donc du coup, au-delà de l'Égypte ou d'autres États de la région, je pense que l'Iran est suivi très très près à Moscou dans ses interactions avec Trump.
Ce qu'on peut retenir peut-être, Jérôme Dubois, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose, mais on a bien compris cette stratégie et grâce à vos éclairages à chacun sur la stratégie de Moscou dans la région. C'est malheureusement déjà la fin de géopolitique. Merci à nos invités, Pierre Razou, qui est directeur de recherche à l'IRSEM et auteur de plusieurs ouvrages dans la guerre Iran-Irak aux éditions Perrin. Julien Nocetti, chercheur au Centre Russie de l'IFRI et spécialiste de la politique russe au Moyen-Orient. Mathieu Boulegue, associé au cabinet de conseil en management des risques ASMA, analyste pour le think tank Cap Europe et spécialiste des questions post-soviétiques. Et merci aussi à Jérôme Dubois, capitaine de frégate, stagiaire à l'école de guerre. L'école de guerre que nous remercions pour leur accueil ici à l'Amphifoche de l'école militaire. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet du RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Médard Chablaoui et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à la politique étrangère de la France et les défis du prochain président français en la matière. À demain.